Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Coupe d'Afrique des Nations Cannes Côte d'Ivoire 2023, la RDC sera face à la Zambie ce soir. Certains Congolais espèrent déjà en la victoire des Léopards, mais d'autres expriment leurs craintes à cause, disent-ils, de l'effectif vieillissant des fauves congolais. Dans ce journal, nous verrons l'ambiance qui règne dans la ville de Kinshasa avant cette rencontre. Situation difficile pour les déplacés de Kwamout au Maïndombe vivant à Bagata au Kwilu. Il s'agit de ceux qui ont fui la dernière attaque de la milice Mobondo contre le village Mbuntie. Ces déplacés sont dépourvus de tout, alerte le député national Gary Sakata, élu de Bagata. Et puis, aucune femme de Béniville ni de Béni Territoire n'a été élue aux législatives nationales, ce malgré les efforts fournis avant et pendant la campagne électorale. Comment arriver à changer la donne lors des prochains scrutins? Nous en parlons dans ce journal avec Patience Sinamouli, point focal de CAFED. Madame, messieurs, bonjour. Sport pour commencer. Les Léopards de la RDC jouent ce mercredi soir à San Pedro, en Côte d'Ivoire, contre les Chipolopolo de la Zambie. Ce sera à 21h, heure de Kinshasa. Il s'agit du premier match de la RDC pour cette compétition. Il compte pour la première journée du groupe F. Voyons avant tout l'ambiance qui règne actuellement dans la capitale Kinshasa avant ce rendez-vous. Et c'est avec vous, Vanessa Nkongolo.
Ici, au rond-point Willery, où je me retrouve en ce moment, il n'y a pas assez d'engouement comme d'habitude. Vu que c'est un jour férié, le 17 janvier en République démocratique du Congo. Mais en tout cas, le drapeau de la République démocratique du Congo est visible. Il y a des vendeurs ambulants qui vendent des drapelets, des insignes, mais aussi quelques vendeurs qui ont en tout cas remplacer leurs articles par les vareuses de la République démocratique du Congo. Quelques supporters congolais que j'ai pu interroger disent qu'aujourd'hui, pour eux, ils pensent que la RDC va bien commencer cette Coupe d'Afrique des Nations par une victoire de 2-0, comme le disent certains. Mais en tout cas, on voit que beaucoup de gens attendent ce premier match de la RDC. Il y a aussi beaucoup de passants qui sont habillés en vareuse de la RDC, soit la nouvelle marque, même l'ancienne marque aussi. Ils sont vraiment visibles. Les motards ont le drapeau de la RDC devant leur engin. Il y a aussi des taxis, des transports en commun qui ont, en tout cas, placé le drapeau de la République démocratique du Congo. Il faut dire que les Congolais sont impatients de suivre ce tout premier match de la Coupe d'Afrique des Nations, la 34e édition, que la RDC va jouer contre la Zambie. Depuis les ronds-points Willery, Vanessa Nkongolo, Radio Okapi.
Merci Vanessa. Et justement concernant le score, si certains Kinois interrogés espèrent la victoire des Léopards, d'autres par contre expriment leur crainte à cause, disent-ils, de l'effectif vieillissant des fauves congolais. On les écoute au micro de Blaise Shindani Kambala et Alpham Poissa.
C'est vrai que par patriotisme, nous devons soutenir notre équipe. Mais sincèrement, il n'y a pas d'équipe type qui doit faire l'affaire. Nous allons, c'est pour jouer le tout pour tout. Essayer de voir, donc ça sera match pour match, pour voir les résultats, comment ça va donner. Et surtout que nous sommes habitués à travailler avec des calculettes pour avoir les résultats finaux. Donc ça ne nous inquiéterait pas. Pronostic, on peut gagner 1-0.
C'est une équipe qui n'est pas expérimentée par rapport à la compétition, mais c'est une équipe talentueuse qui peut faire du mal face à différents équipes qu'elle pourra rencontrer lors de cette compétition. Alors personnellement, je crois en cette équipe puisqu'elle est talentueuse et elle peut faire la différence lors de cette phase finale de la CAN. Mais je pense que l'RDC pourra battre cet adversaire par le score de 2-0. Là, c'est mon pronostic.
Cet effectif de 27 joueurs de Sébastien Desabres est un effectif plutôt vieillissant. Des joueurs qui sont âgés entre 24 et 33 ans. Le plus vieux, c'est bien Cédric Bakambu qui est né en 91 en avril. Et donc qui va avoir bientôt 33 ans.
Par ailleurs, sachez que les deux équipes nationales qui vont s'affronter ce soir sont des vieilles connaissances qui ont presque le même système des jeux. C'est ce que nous dit Jean Ganduka Bongo.
La RDC et la Zambie sont deux pays limitrophes qui partagent une longue frontière qui va de Kipushi passant par Kasumbalesa, Mokambo, Sakania et même jusque dans les territoires de Poueto. Cette proximité favorise non seulement pas les échanges commerciaux mais aussi les échanges sur le plan sportif. C'est ainsi que très souvent les équipes congolaises, notamment celles qui sont dans le Haut-Katanga, vont s'entraîner en Zambie. Et une bonne colonie des joueurs congolais évolue dans ce pays voisin pendant que les joueurs zambiens ont par le passé fait aussi les bonheurs des équipes congolaises. À noter aussi que les Zambiens ont un football basé sur la vitesse et la cohésion avec un bon nombre d'athlètes du championnat local. La RDC pour sa part mise sur le collectif et possède aussi les joueurs qui ont de la percussion et qui évoluent dans des grands clubs européens. Cependant, au sein des Léopards, un seul joueur évolue dans les championnats locaux. La dernière confrontation entre les deux équipes nationales remonte à la Coupe d'Afrique des Nations Guinée-Équatoriale 2015. Cette rencontre s'était soldée sur le score de 1-0. Si les deux pays sont séparés notamment par plusieurs centaines de kilomètres de frontières, ce mercredi soir à San Pedro au coup d'envoi, ils laisseront par la ligne médiane avec les chances égales. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Je vous le disais en titre, situation difficile pour les déplacés de Kwamout au Maïndombe vivant ces derniers temps dans certains villages du territoire de Bagata au Kwilu. Il s'agit de ceux qui ont fui la dernière attaque des miliciens Mobondo contre le village Mbuntie situé le long de la rivière Kwango en face de Bagata. Ces déplacés sont dépourvus de tout, ils manquent d'assistance humanitaire. Leurs champs, maisons, écoles et églises ont été vandalisés par les miliciens à Kwamout. Le député national élu de Bagata, Gary Sakata, qui alerte, invite le gouvernement à intervenir pour rétablir la paix et assister ses déplacés. Le récit de Irène Boma.
C'est en date du 7 janvier en cours que le village Mbuti en Kwamout a été attaqué par des miliciens Mobondo. Et depuis, presque toutes les familles ont été obligées de quitter les 10 villages et ses environs pour sauver leur vie. Ces familles se sont concentrées dans les villages Fambondo et Fasila en territoire voisin de Bagata au Kwilu, rapporte le député national Gary Sakata. D'après lui, ces déplacés internes dont les femmes et les enfants vivent dans des conditions inhumaines. Il manque également de nourriture. Ajoute la même source.
Ces gens, les enfants, les bébés, dorment à la pleine lune, puisqu'ils sont très nombreux, donc la vie devient intenable, dormant par terre, sous les arbres, parfois dans les églises lorsqu'il fait nuit, ou dans les écoles. Donc la journée, il y a des élèves qui vont étudier, et le soir, plusieurs réfugiés trouvent leur refuge.
L'élu de Bagata affirme qu'il est nécessité que des mesures humanitaires urgentes soient prises en faveur de ces déplacés.
Il faudrait nécessairement, obligatoirement, que le gouvernement puisse intervenir, puisse s'en occuper le plus vite possible, parce que la situation ne va vraiment.
Le professeur Gary Sakata déplore l'absence des forces armées dans ce coin et invite le gouvernement à vite intervenir pour rétablir la paix à Kwamout afin que ces déplacés puissent retourner dans leurs villages respectifs. Irène Mboma, Bandunduville. Radio Okapi.
Entre-temps, en Ituri, la situation sécuritaire est relativement calme dans plusieurs entités du territoire de Djougou, en dépit de la présence des groupes armés qui menacent la quiétude de la population. C'est le constat fait hier par une équipe de la MONUSCO qui s'est rendue à Fataki, centre de négoce situé à environ 80 km de la ville de Bounia. Selon des sources locales, cette accalmie est due aux patrouilles mixtes MONUSCO-FARDC effectuées quotidiennement pour étouffer les tentatives d'attaque de ces miliciens. Ezekiel Mouzalia.
C'est depuis le 1er janvier de l'année en cours que les miliciens de la Codeco ont multiplié des attaques contre des civils et des positions des FARDC dans plusieurs localités sur les tronçons Jina-Fataki. Le dernier cas date de la semaine dernière où un militaire a été tué par des hommes armés dans le village Itsilo. Conséquence de ces exactions, la perturbation du trafic sur la route nationale numéro 27. La plupart des chauffeurs ont résolu de stopper la circulation à 16h pour éviter de tomber dans l'embuscade de ces hommes armés. Cela malgré la présence de plusieurs positions des FARDC sur les tronçons Jina Pitso Pimbo jusqu'à Fataki Centre. De nombreux véhicules avec des marchandises en provenance de Mahagi sont obligés de passer nuit à Fataki Centre et à Iga Barrière pour poursuivre le voyage le lendemain. Pour écarter les menaces de ces groupes armés, les forces de l'ordre et les casquets bleus de la MONUSCO intensifient les patrouilles dans la région. De nombreux habitants retrouvés à Jina saluent cette disposition qui permet aux opérateurs économiques ainsi qu'aux usagers de cette route de circuler librement. Ils demandent cependant aux autorités militaires de traquer les groupes armés réfractaires au processus de paix. Pour rappel, une dizaine de civils sont déjà tués sur ces tronçons depuis le début de cette année. Depuis Fataki, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Du côté du Nord Kivu, l'armée congolaise en appelle à l'implication du mécanisme conjoint de vérification pour le rapatriement du corps de son soldat tué et le retour des deux autres militaires arrêtés au Rwanda. Dans un communiqué officiel, l'armée rwandaise dit avoir neutralisé ses soldats congolais pour avoir traversé illégalement hier mardi la frontière terrestre entre les deux pays. Le chef du service de communication des FARDC, lui, dit que c'est par mégarde que ces militaires se sont retrouvés là-bas. Bernardin Nyangi nous en dit plus.
Dans ce communiqué partagé sur le compte X officiel de l'armée congolaise, le chef du service de communication et de formation des FARDC précise que c'est pendant qu'ils étaient en patrouille dans la zone frontière que les trois militaires congolais se sont retrouvés par inadvertance, selon lui, mardi 16 janvier aux environs de 10 heures locales sur le territoire rwandais. Le général Sylvain Ekenge cite nommément le soldat Assoumani Mupenda, Agnès Kanko et Lucien et le soldat de deuxième classe Bokuli Lote. Le général Ekenge soutient que cette situation des militaires congolais ou rwandais égarés et appréhendés en territoire étranger dans les deux pays est fréquent. Il déplore le fait que les éléments RDF aient choisi de tirer sur l'un de ces trois militaires. L'armée congolaise dit avoir ainsi saisi le mécanisme conjoint de vérification pour le rapatriement du militaire tué et des deux autres capturés. Rappelons que, dans un communiqué diffusé sur son site officiel, le RDF précisait que le troisième militaire avait été tué alors qu'il tentait de tirer sur une patrouille de l'armée rwandaise. Goma, Bernardin Nyangi, Radio Okapi.
Par ailleurs, un calme précaire règne ce mercredi dans les villages de Karuba et Kichanga, dans le territoire de Masisi. Nous sommes toujours au Nord Kivu. Karuba a été le théâtre des violents affrontements ayant opposé hier mardi jusqu'à 14h locales les FARDC et les groupes armés aux rebelles du M23. Les sources locales affirment qu'à l'issue de ces combats, les groupes armés ont occupé une partie de Karuba, l'autre partie étant toujours entre les mains des rebelles du M23. À Kichanga, en revanche, c'est une position des rebelles M23 qui a été frappée hier par des bombes larguées par un drone vers 10 heures locales. Certaines sources militaires parlent d'un bilan lourd, à savoir deux officiers M23 qui auraient été tués. Dans un communiqué diffusé ce mercredi sur son compte X, le M23 condamne cette attaque et parle d'une violation du cessez-le-feu. Rendons-nous au Kasaï oriental pour parler de cette bonne nouvelle pour les habitants de cette province en général et en particulier ceux de Mbujimayi. La ville enregistre une baisse sensible de prix de la mesurette de 3,5 kg de maïs, un aliment de base de cette province, vendu il y a deux semaines à 10 000 voire 12 000 francs congolais. La mesurette de maïs se négocie actuellement entre 4 000 et 7 000 francs congolais, une situation qui réjouit plusieurs femmes ménagères, nous dit Esther Ndalafina.
Sur le marché, on trouve deux qualités de maïs. La qualité la plus sollicitée par les ménagères est celle produite au cours de la saison culturelle B. Sa mesurette se vend à 7 000 francs congolais. Pourtant, elle s'est vendue la semaine dernière à 10 000 voire 9 000 francs congolais. Le maïs de cette saison culturelle A est en train d'être récolté depuis le mois de décembre à ces jours. La mesurette se négocie déjà autour de 4 000 francs congolais pour cette qualité de maïs. La présence sur le marché de maïs de ces deux saisons culturelles a entraîné la baisse de prix de cet aliment de base de la province. Un motif de satisfaction pour les femmes ménagères.
Le maïs s'est vendu même à 12 000 par méga. Depuis la récolte, nous avons trouvé des qualités de maïs. Au moins un changement, il y a baisse de prix. Très content, mais nous voulons que ça puisse se rabaisser plus que ça. Nous sommes en train de produire localement.
Nous avons vraiment la joie pour cette fois-ci parce qu'il y a baisse des maïs au marché. Au mois de novembre, et c'était même rare sur le marché. Mais pour cette fois-ci, nous voyons le maïs au marché, prix abordable.
Pendant que les prix des denrées alimentaires sont en baisse, ceux de produits manufacturés augmentent sur le marché. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Province du Maniema, nous apprenons le détournement des matériels et médicaments à l'hôpital général de référence de Samba. Cette situation est décriée par la société civile locale. Une équipe d'inspection provinciale de la division provinciale de la santé, DPS Maniema, est sur place pour s'enquérir de la situation. À l'issue de 4 jours des travaux, quelques mesures disciplinaires ont été infligées aux incriminés. La société civile de Samba salue cette mesure et demande la restitution des biens de l'hôpital volés. On écoute le président de cette structure, Abedi Kazimoto Dallas, au micro de Florence Kizalunga.
Du 11 au 14 janvier courant, nous avons assisté à l'audit sur la perte de plusieurs biens de l'hôpital général de référence de Samba. Saluons avec enthousiasme la compétence et l'honnêteté affichée par les inspecteurs comme témoins de la mission et principale dénonciatrice. La société civile Force Vive alerte l'opinion nationale, provinciale et la communauté locale de la zone de santé rurale de Samba qu'il ne s'agit pas d'un détournement, mais plutôt d'un pillage systématique des matériels en nombre pléthorique. Frais médicaments et médicaments dotés par différents partenaires à l'hôpital général de référence de Samba. Peu importe les différentes mesures disciplinaires ici du résultat de l'enquête, dont suspension, mutation, déchéance ainsi de suite, une façon d'effacer les traces. Prenons à témoin les gouverneurs des provinces et l'assemblée provinciale que la priorité de la population de la zone de santé rurale de Samba, c'est la restitution ab irato de tous les biens volés par les personnels soignants. Un hôpital général dépourvu même d'un glycomètre. Quel gêne même si l'on a un parrain politique. Faut-il substituer la méritocratie par la médiocrité? Non!
Contacté, le ministre provincial de la Santé garantit la société civile de la restitution de tous ses biens.
Actualité internationale.
Le Kenya s'est lancé dans une vaste opération de relocalisation de ses rhinocéros noirs. 21 mammifères en danger critique d'extinction vont élire domicile dans le parc privé de Loïsaba, situé dans le centre du Kenya. Cette relocalisation concerne plusieurs mâles et femelles récupérés dans 3 parcs. En Turquie, un tribunal d'Istanbul a reconnu le fils du président somalien coupable de la mort d'un coursier à moto et l'a condamné à 2 ans et 6 mois de prison. Le fils de Mohamed Hassan Sheikh Mohamoud avait percuté par arrière avec sa voiture le scooter d'un livreur décédé quelques jours plus tard à l'hôpital.
L'invité.
Aucune femme de Bénéville ni territoire n'a été élue aux législatives nationales malgré les efforts fournis avant et pendant la campagne électorale. Comment les femmes ont-elles accueilli les résultats des dernières élections publiées le week-end dernier par la CENI? Comment arriver à changer la donne lors des prochaines échéances électorales? Pour en parler, nous recevons Patience Sinamouli, point focal du collectif des associations féminines pour le développement CAFED. Elle s'entretient avec Guylaine Kassassia.
Patience Sinamouli, bonjour.
Bonjour.
Malgré les efforts de sensibilisation avant et pendant la campagne électorale, malgré les engagements des uns et des autres, les résultats des dernières législatives n'est du tout bon pour les femmes. Aucune d'entre elles n'a pas été élue dans la région de Béni. Quelle est votre réaction?
J'aimerais d'abord encourager les femmes qui se sont démarquées sur le terrain. Elles ont fourni assez d'efforts jusqu'au jour d'aujourd'hui. Elles continuent à travailler. Pour nous, c'est un encouragement. Dire que la femme a échoué, je dirais non. Peut-être qu'elle n'a pas été proclamée. Parce que tout ce que nous savons, les résultats, c'est les résultats collectifs par rapport au CEI. Parce que nous savons, celles-là qui ont été proclamées, il y a la contribution des femmes là-dedans. Parce que les listes qui ont été prises en considération, il y en a des femmes qui figuraient qui ont aussi contribué pour que cette liste atteint X ou Y. Donc, tout ce que nous attendons dans les jours qui viennent, c'est que la femme soit proclamée. C'est un processus. Donc, du niveau où la femme est aujourd'hui, nous croyons encore meilleure dans les jours qui arrivent. En dehors des difficultés qu'elles ont connues, parce que différentes autorités morales des partis politiques n'ont pas honoré leur engagement pris en faveur de la femme. Et la femme qui a postulé avec les faibles moyens financiers qu'elles ont, elle a tout gaspillé, mais arrivée à un certain niveau, elle a été abandonnée par son parti politique. Celles-là qui ont été élues doivent reconnaître qu'il y a l'effort des femmes là-dedans. Toutes les fois qu'il y aura les nominations, ils doivent considérer les femmes qui existent sur leur liste de candidats.
Oui, madame, qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous? Les femmes représentent quand même plus de 50% de l'électorat en RDC. Pourquoi ne vote-t-elle pas pour les femmes? Où se situe le blocage d'après vous?
Dire que les femmes ne votent pas aux femmes, c'est fille avant. Parce que tous les jours, nous vous disons que tout commence par un pas. Il y a des années où la femme ne pouvait faire confiance à une autre femme. Mais plus on avance, si les femmes ne votaient pas pour les femmes, même celles qui sont sur les listes n'obtiendraient pas les voix qu'elles ont obtenues. Donc peut-être qu'elles n'ont pas atteint les seuils, répondu et recommandé. Je vous rassure que prochainement, il y aura des femmes qui seront proclamées. Les difficultés, nous les avons soulignées dans plusieurs aspects. Il y avait des femmes qui ont été manipulées au début, parce que même à les aligner sur les listes électorales, elles n'étaient que des figurantes. Et aussi des partis politiques qui ont promis les accompagner, mais ne l'ont pas fait. Et arrivant à un certain niveau, c'est compliqué.
Peut-on dire qu'on leur a promis un accompagnement et après ça n'a pas tenu? Peut-être une façon aussi encore de les engouffrer?
Les politiciens savent ce qu'ils font. Mais tout ce que nous savons, c'est que contrairement aux années passées, au mandat passé, la femme a fait ce qu'elle pouvait. Dans cette occasion, nous sommes en train d'interpeller les différentes autorités des partis moraux. Quand vous alignez une femme sur votre liste, vous devez tenir compte de ses capacités. En dehors de ses capacités, vous devez tenir compte de ses moyens financiers. Mais vous avez recruté la femme avec une capacité, vous lui promettez de l'accompagner sur terrain avec un moyen X ou Y, mais subitement, vous ne faites rien. Et là, nous disons que c'était aussi une façon de les exploiter. Et c'est là où nous parlons que la plupart d'elles ont été juste des figurantes. Et les femmes qui sont passées, vous allez voir, ce sont les femmes qui ont travaillé il y a des années. Donc elles ont déjà les moyens avec elles. Mais celles qui se sont lassées, je dirais que les finances et l'accompagnement logistique et autres a causé tort à certaines femmes.
Peut-être pour finir, une fois de plus, vous venez de perdre une bataille, mais pas la guerre de la représentativité de femmes au niveau des instances de prise de décision et du pouvoir. Il y a d'autres échéances à venir. Que comptez-vous faire pour inverser cette tendance qui se confirme malheureusement de ce cycle électoral, un cycle électoral? C'est quoi la recette selon vous pour avoir plus de femmes aux assemblées provinciales nationales?
Je suis en train de regarder certains faits. Nous n'avons pas perdu la bataille. Parce que les hommes ne sont pas nos ennemis, sont nos partenaires. Donc quand un homme réussit, nous voulons voir aussi une femme réussir aussi comme un homme. Donc prochainement, nous pensons que les hommes qui ont milité longtemps, qui savent déjà le fond de la politique, qu'ils aient encore cette flexibilité d'accompagner aussi les femmes et leurs capacités pour qu'elles atteignent aussi leur vision un jour. Parce que là, les autres parties, normalement, elles devaient déjà commencer avec les activités sur le terrain pour essayer de vendre encore l'image de la femme. Mais elles seront encore bloquées parce que les paix qu'elles avaient, elles ont tout consommé. Et même revenir au niveau des électeurs auprès desquels ils obtenissent certaines voix, elles ne seront même pas en mesure de le faire encore. Donc c'est un défi qui coince la femme jusqu'à présent.
Pasteur Sinamouli, nous vous remercions.
C'est moi qui vous remercie.
Notre invitée est point focal du collectif des associations féminines pour le développement CAFED. Elle s'entretenait avec Guylaine Kassassia. Par ici prend fin ce journal, coordonné par Élisée Chikotachi-Vuita. Supervision de Martin Sebujangwe, Alain Ngoy à la mise en onde. Merci d'avoir été des nôtres.